Madame Julien, pour continuer à évoquer aujourd'hui la réforme religieuse, quelle musique avez-vous choisie?
Une fois de plus, nous allons retrouver Mozart, avec cette fois un opéra très célèbre, La Flûte enchantée. Ce choix n'est-il pas paradoxal ou bizarre? La Flûte enchantée, une légende, le merveilleux des contes de fées? Oui, bien sûr. Mais sous l'allégorie, il faut lire l'intention. Sous la fable, il faut retrouver le symbole. Mozart, depuis 1784, adhère à la franc-maçonnerie. L'idéal philosophique des francs-maçons l'exalte. Et il suivra les suggestions de son librettiste afin de transposer dans sa musique les idées maçonniques de l'époque. C'est-à-dire, en gros, et ici, d'une part, le triomphe de l'amour et du courage sur la méchanceté et la bêtise. D'autre part, la croyance en une société fraternelle où un même esprit unirait tous les hommes. Chez Mozart, cela reste très idéaliste, mais on reconnaît quand même les idées maîtresses qui animent les hommes de la Révolution. C'est pourquoi j'ai choisi cette œuvre, se présentant comme une œuvre de foi, et au sens le plus riche du terme, comme une œuvre religieuse. La Flûte enchantée, ouverture.
Monsieur Julien, la Révolution française réforme de façon très profonde notre société. La réforme religieuse en est un exemple. Vous nous avez parlé la semaine dernière de la vente des biens du clergé, qui était l'aspect matériel de cette réforme. Vous allez aujourd'hui aborder l'aspect spirituel.
Spirituel, oui, religieux, la condition des prêtres. La constitution civile du clergé a été promulguée le 27 décembre 1790. Elle n'a rien à voir avec les biens nationaux, hein. Cette constitution civile du clergé définit la nouvelle organisation de l'Église de France en lui donnant le caractère d'Église nationale. C'est là un statut particulier et privilégié si on le compare à celui des autres religions, la protestante et la juive, qui, elles, sont autorisées, certes, la liberté de culte est reconnue, mais elles ne sont que tolérées et elles ne bénéficient d'aucune aide de l'État. En vertu de ces nouvelles dispositions de la Constitution civile, tous les ecclésiastiques deviennent soit fonctionnaires, s'ils sont ministres du culte, prêtres ou vicaires, soit pensionnés de l'État, s'ils sont anciens religieux. Les curés et les évêques seront désormais élus par le Collège des électeurs.
Vous nous expliquez ce qu'était le Collège des électeurs et qui le composait ?
Oui, par la Constitution de 1791, élaborée par l'Assemblée nationale constituante, et l'administration française était une administration élective. Les officiers municipaux, les députés, tout était élu. Mais pour ceux qui étaient des administrateurs du département, des administrateurs du district, des prêtres, des juges de paix, ces personnages, qui étaient au fond des fonctionnaires, étaient élus, mais non pas par tout le monde, ce n'étaient pas tous les fidèles d'une paroisse qui élisaient le curé. Il y avait deux catégories. Les citoyens actifs, qui payaient des impositions, élisaient dans leur commune ce qu'on appelait de grands électeurs, des électeurs qui se réunissaient. Et ces électeurs étaient des gens plus riches, qui devaient payer une contribution égale à 10 journées de travail. Ces électeurs-là se réunissaient au chef-lieu du district ou du département, suivant le cas, et on leur faisait élire là les fonctionnaires qu'il fallait élire, en l'espèce les curés, en l'espèce les évêques. Et c'est donc ainsi que le curé de Saint-Antonin, la Sauce, sera élu à Villefranche curé de Saint-Antonin, que l'ancien prieur mage du chapitre Henri Juvenel sera élu vicaire épiscopal, c'est-à-dire adjoint à l'évêque. Le nombre d'évêchés est ramené à 83, un par département. Il y en avait beaucoup plus avant. Le département de l'Aveyron seul, qui vient d'être créé, contenait avant deux évêchés, l'évêché de Rodez et l'évêché de Vabre, et ainsi de nombreux autres départements. On diminuera aussi le nombre de paroisses. On en supprimera beaucoup, sauf dans notre commune, où toutes les paroisses seront maintenues, y compris une paroisse qui n'existe plus aujourd'hui, et qui est la paroisse de Montpalache, qui existait alors. L'église a été détruite parce qu'on l'a vendue et on en a démoli, on en a enlevé les matériaux pour construire en partie, pour réparer en partie l'église de Servanac. Mais ces prêtres et ces évêques ainsi nommés qui sont devenus des fonctionnaires devront prêter serment à la Constitution. C'est cette obligation du serment qui, surtout après la condamnation par le pape de la Constitution civile du clergé, va provoquer une scission dans l'église entre ce qu'on a appelé les prêtres assermentés et les prêtres réfractaires. C'est cette scission qui va entraîner dans certaines régions de France de graves conflits et même la guerre civile comme en Vendée.
Pour quelles raisons, M. Julien, le pape a-t-il condamné la Constitution civile ?
Pour deux raisons essentielles. D'abord parce que l'élection des curés et des évêques le privait d'un pouvoir qu'il avait. On les lui présente, on lui dit voilà, il y a un tel, on vous demande de l'agréer, mais pour lui ça ne lui suffit pas, c'est une atteinte à sa puissance et à son pouvoir. Ensuite, il est privé du revenu des annates, c'est-à-dire des chaque fois qu'un évêque était nommé à la tête d'un évêché dans l'ancien régime, il devait verser au pape une année des revenus de l'évêché, ce qu'on appelait les annates. Enfin, précisons-le tout de suite, le pape de cette époque n'était pas ouvert aux idées nouvelles et il voyait bien que cette révolution qui se mettait en marche en France était très dangereuse. Voilà pourquoi il l'a condamné après avoir hésité longtemps et, dit-on, avec les encouragements des membres de la famille du roi qui l'ont poussé d'ailleurs à refuser la Constitution civile. C'est regrettable parce que la révolution n'aurait pas évolué dans le mauvais sens dont s'attristent certains si le pape à cette époque n'avait pas condamné la Constitution civile du clergé. Pour l'heure à Saint-Antonin, tous les ecclésiastiques prêtent le serment civique. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Ce serment civique exigé par la loi, et ils le prêtent le 20 février 1791, exactement, à l'exemple du curé Lassosse, ancien prieur du chapitre, au cours d'une cérémonie que l'on nous décrit ainsi dans le procès verbal du conseil de la réunion du conseil municipal. Le dimanche 20 février 1791, à 11h avant midi, en l'église paroissiale de Saint-Antonin, département de l'Aveyron, district de Villefranche, à l'issue de la messe, en présence du conseil général de la commune du dit Saint-Antonin et des fidèles assemblés, Monsieur Georges Lassosse, curé de la présente ville et paroisse de Saint-Antonin, s'est présenté et a dit qu'en exécution du décret de l'Assemblée nationale du 27 décembre 1790, sanctionné par le roi le 26 décembre suivant, publié et affiché dans cette ville les 6 et 13 du courant, il venait prêter le serment civique prescrit par le dit décret, et de fait, le dit sieur curé a prononcé à haute et intelligible voix et la main levée le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse confiés à ses soins, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée et acceptée par le roi. L'ancienne prieure mage du chapitre, je l'ai dit, Henri de Juvenel, sera élu, lui, vicaire épiscopal de Rodez. L'évêque de cette époque-là, qui a été élu aussi, s'appelait De Berthier. Et les états de traitement des ecclésiastiques que nous conservons indiquent que notre ville abritait en 1791 17 prêtres ou religieux assermentés. C'était beaucoup quand même, hein? Parmi ces 17, évidemment, il y avait les curés des paroisses de Saint-Antonin, Servanac, Sainte-Sabine, Montpalage, Alière et Lamandine. La plupart d'entre eux resteront fidèles à cette attitude, même après l'ouverture des hostilités contre l'Autriche, même après l'exécution du roi Louis XVI le 21 janvier 1793, à l'exception de Jean-Baptiste François Joanny, vicaire de Saint-Antonin, qui, dès l'automne 1792, après la proclamation de la République, s'enfuira et émigrera en Espagne. Cependant que ses oncles, Antoine et Joseph Joanny, curés dans le département du Lot, près de Montpezat, à La Salvetat pour l'un d'eux, l'autre à Castanet du Lot, pratiqueront le culte clandestin pendant une longue période, puis seront mis en réclusion au fort du Ha, à Bordeaux, et puis enfin, parce qu'ils étaient vieux et infirmes, assignés à résidence dans leur maison de la place du Mazelbiel.
Nous le verrons si un jour vous nous racontez le projet de translation de l'église de Beaulieu à Saint-Antonin. Mais il est curieux de constater que c'est un prêtre réfractaire, dont le curé Joanny, qui est devenu le personnage important du clergé saint-antoninois plus tard.
Après la Révolution, oui. Oui, il a émigré en Espagne, mais précisons donc qu'il était déjà vicaire de Saint-Antonin. Et quand il va revenir en 1797, on va le voir réapparaître, il reviendra auprès des catholiques saint-antoninois, auréolé de l'auréole du proscrit, du martyr. D'autre part, c'est un enfant de Saint-Antonin. Il est beaucoup plus sympathique à la population que les autres, comme Lassos, le curé, qui est un Lyonnais, ou Henri de Juvenel, qui est un Parisien. Hein. C'est Joanny et même ses oncles. Ses oncles sont des Saint-Antoninois, qui ont des terres ici. Ils sont des descendants d'une famille Saint-Antoninoise. Et d'ailleurs, ses oncles, avant qu'ils soient arrêtés, on les verra pas. On saura qu'ils pratiquent le culte clandestin. Et quand on enverra un commissaire de Villefranche pour les rechercher, que les officiers municipaux de Saint-Antonin s'empresseront de dire « Oui, mais on y va, on enverra la garde nationale. » Parce qu'on a entendu dire qu'il disait la messe au Martinet, il disait la messe à Joanny, par là-haut du côté du Bosque. Alors on envoie partout, on interroge les gens répondent « Ah oui, peut-être, il s'est dit une messe, je sais pas, mais j'étais pas moi. » Mais c'est vrai, il s'est dit une messe. Et qui est-ce qui disait cette messe? Est-ce que c'était pas les vieux Joanny, les deux frères Joanny curés? Ah non, je connaissais pas, on connaissait pas, non, personne ne connaissait. Et disons que les frères Joanny, s'ils sont un jour arrêtés, ce sera pas la faute des officiers municipaux de Saint-Antonin, qui les ont protégés tant qu'ils ont pu. On peut donc dire que les prêtres n'ont pas été persécutés ici, pas plus les assermentés que les réfractaires, qu'ils y étaient nombreux, au point que nous pouvions, en 1793, répondre favorablement à une demande pressante qui nous était envoyée par les officiers municipaux de Caylus, qui, eux, les pauvres, n'avait plus aucun prêtre assermenté pour célébrer le culte. Or, tout prêtre qui n'était pas... On ne pouvait pas laisser célébrer un culte officiel par des prêtres qui n'étaient pas assermentés. Alors ils envoient une lettre qui serait trop longue de lire, en nous suppliant de leur envoyer un prêtre. C'était justement pour la fête Dieu, 93, à Caylus, ils n'avaient personne, c'était désastreux. Alors c'est nous, à Saint-Antonin, vieille cité papiste, qui avons envoyé un curé à Caylus en 1793. Et il s'appelait Jean-Baptiste Thomas, et c'était un ancien capucin. Et il y est allé, les gens de Caylus nous ont remerciés, nous disant qu'ils étaient bien contents et qu'à l'occasion, ils nous rendraient l'appareil. Ils n'ont jamais eu l'occasion de nous la rendre, bien entendu. Ce nombre restreint de prêtres réfractaires chez nous Et ça, c'est une chose particulière à Saint-Antonin. Il faut dire qu'en France, la majorité, la très grande majorité des membres du clergé n'ont pas prêté le serment civique. Ça a été des prêtres réfractaires ou des ecclésiastiques non assermentés. Eh bien, à Saint-Antonin, le nombre a été très réduit. Au maximum, il y en a eu 5. Dans les, pas plus.
Oui, comment on peut expliquer que ce nombre soit si réduit par rapport aux autres villes de France?
Eh bien voilà, c'est assez drôle, c'est assez drôle. Remarquons que tout de suite, les prêtres originaires du pays ont été réfractaires. Je veux parler des Joigny, hein, et des trois Joigny, et puis ensuite d'un autre qui s'appelait Guillaume Lacombe aussi, qui était un prébendé du chapitre, qui deviendra réfractaire, mais après coup, lui. Quand on aura décapité le roi, il dira vraiment c'est intolérable, je ne veux plus être là, il disparaîtra la circulation. Bon, alors les autres qui ne sont pas devenus réfractaires, c'était la sauce, c'était donc des Génovéfains, des Carmes, ce sont des gens évolués, ça, intellectuellement, qui ont adopté depuis longtemps les idées nouvelles, et que la révolution n'effraie pas. Ils sont d'accord avec le régime, tout à fait d'accord. Voilà. Enfin, ça se trouve ainsi. Et de ce côté-là, Saint-Antonin se distingue pas facilement, hein. On a pas des titres de gloire, mais en voilà, hein, si vous voulez, hein. Eh bien, ce nombre de prêtres réfractaires, il aurait pu s'aggraver. Quand par exemple, dans l'été 1794, on réquisitionne tous les vases, tous les ornements qui sont en argent, qui sont en cuivre, en argent et en or, qui appartiennent aux églises, et qu'on les envoie à la monnaie pour les fondre. Quand on enlève toutes les grilles, vous savez, la grille de communion dans les églises a été enlevée, quand on enlève les rampes des couvents et les gardes-corps, et on les envoie, on les réquisitionne pour l'armée pour faire des piques, quand on descend les cloches même, hein, ces cloches qui sont descendues et envoyées à la fonte pour faire des canons, eh bien, il ne semble pas, au vu des documents du moins, que toutes ces réquisitions brutal et provoquer une émotion quelconque parmi la population de Saint-Antonin. Cela veut dire qu'il y a eu incontestablement complicité des officiers municipaux pour dissimuler pas mal de choses, que ce soit des vases sacrés ou des cloches, comme ces deux cloches, qu'un document découvert en 1982 rue Guillaume Peyre nous révèle avoir été caché par les chanoines. Et que nous n'avons pas, hélas, retrouvé.
L'histoire de ces deux cloches cachées par les chanoines fait se croiser l'histoire et l'actualité récente.
Oui, en effet.
Oui, on a dit beaucoup de choses sur ces cloches. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les faits?
Oui, alors un document sur papier de l'époque, écrit avec l'écriture de l'époque, donc, qui est incontestablement authentique. Ce document a été découvert par deux jeunes gens, Patrick Allan et David Bruno, dans leur maison de la rue Guillaume Peyre. Ils nous l'ont apporté, et sur le vu de ce document qui nous indiquait que les chanoines de Sainte-Geneviève avaient caché deux cloches dans le jardin du couvent en face de la porte principale, à deux toises de la porte principale et à 6 pieds de profondeur, eh bien ça c'était un renseignement très précis. Alors évidemment on a creusé, là ça a soulevé l'émotion de la population, la dépêche en a parlé en première page, ça a été quelque chose d'inouï, on a fait venir des spécialistes de détection, on a creusé jusqu'à 4 mètres de profondeur sur un carré de 6 mètres de là, on n'a rien trouvé du tout, il n'y avait rien. Alors de là à dire que j'étais un imposteur et quelqu'un qui mettait en mouvement pour rien, il n'y a pas eu loin, hein. Mais nous n'avions pas plus de chance de les trouver que de ne pas les trouver. Parce qu'enfin, il faut pas oublier que en 1792, époque où on nous dit qu'elles ont été cachées, c'est une année. Mais en 1795, 3 ans après, le culte catholique était libre à Saint-Antonin. Et les mêmes chanoines étaient toujours à Saint-Antonin. Alors, convenons que s'ils avaient caché des cloches, ils auraient dit, les cloches sont là, on les sort. Donc, vraisemblablement, on les a retirées au moment après la tourmente révolutionnaire. Une autre possibilité existe, c'est que je me sois trompé moi-même quand, sur le mot jardin. Le jardin, il était précisé qu'elles étaient enfouies dans le jardin. S'agissait-il du jardin annexé au couvent, c'est-à-dire la cour arrière actuelle de la mairie, qui était un beau jardin, un parterre, était-ce là, ou bien était-ce au jardin potager des chanoines, celui qui se trouve au confluent de la Bonnette et de l'Aveyron, où Radio Nobleval est installé actuellement? Eh bien, même si je me suis trompé de lieu, de localisation, hein, ce que rien ne me permettait de dire de quel jardin il s'agissait. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons aucune chance de retrouver les cloches, parce que l'entrée de ce jardin, en raison des modifications topographiques qui sont intervenues depuis, ne nous est pas connue, et nous ne savons pas où nous pourrions fouiller. C'est pas possible, ça, hein.
Oui, ou alors il faudrait les trouver par hasard.
Les trouver par hasard, ou bien par quelques mystérieux sourciers puissants et savants nous disent, elles sont là, piques, et on piquerait dans la route, peut-être.
Peut-être un jour, sait-on jamais, au moment de l'installation du Tout à l'égout à Saint-Antonin.
Du Tout à l'égout, ou du réseau câblé, peut-être.
Est-ce que ce parchemin qui a été découvert...
Ce n'est pas un parchemin, précisons-le tout de suite. Hein. C'était une feuille de papier de 10,5 cm sur 14, repliée en 8, en 16 même, à l'intérieur d'un petit étui, qui lui, alors, le petit étui, était fait avec une feuille de parchemin repliée, comme dans un petit sac, et cousue.
Oui. Est-ce que l'endroit où on l'a trouvé, dans la disposition de la maison... permet d'entrevoir à qui il était destiné.
Oh, je pense qu'il était destiné, comme chaque fois qu'on jette une bouteille à la mer, à celui qui le trouvera. Hein. On l'avait placé au fond d'un placard sous une brique, et les chanoines se doutaient bien qu'il ne fallait pas le laisser apparaître sur une table, au cas où un garde national ou un envoyé du district ferait une visite domiciliaire, parce qu'elles n'étaient pas rares, les visites domiciliaires à ce moment-là. Alors le meilleur cachette, c'était dans un placard sous une brique. Le fond du placard était pavé en brique. Ces briques, bon, elles pouvaient être plus ou moins disjointes, on avait mis un papier là-dessous, ce qui était une cachette merveilleuse.
Oui, nous disions donc que ces cloches avaient fait beaucoup parler.
Oui, beaucoup.
Je crois qu'il faut préciser aussi qu'elles n'avaient rien à voir avec une vieille légende des cloches d'argent dont on parle beaucoup.
Oui, qui figurent dans toutes les publications, revues, livres qui parlent des trésors cachés ou des trésors perdus. Alors ça, c'est autre chose, c'est un document qui a été découvert en 1717 et qui avait été écrit par un chanoine du chapitre mentionnant qu'il existait deux cloches d'argent enfouies dans la cave de Madame Aliès. Et bon, alors là, c'était en 1717, c'était des cloches qui certainement avaient été enfouies à l'époque des guerres de religion, donc au moins avant 1622, donc il s'était écoulé 100 ans, et là, qu'on ne les ait pas retrouvées, je le comprends. La maison Aliès dont il s'agit, c'est une maison qui n'existe plus et qui se trouvait à peu près à l'emplacement où est le marronnier de la place de la Halle. Voilà où était la maison. Allez, si vous voulez fouiller, là, peut-être il y a les cloches d'argent dedans. Monsieur de Lastic pense que, je parle de monsieur Lionel de Lastic, le Saint-Antoninois bien connu, et pense qu'elles sont peut-être dans une cave de la maison Léris. On ne va pas démolir ni la maison de Lastic, ni la maison Léris pour trouver les cloches d'argent. Laissons rêver ceux qui pensent au trésor des cloches d'argent. Donc, la majorité, la quasi-totalité des prêtres n'ont pas été inquiétés à Saint-Antonin. Cependant, leur situation de ces prêtres assermentés, de ces ecclésiastiques qui ont aussi prêté serment, deviendra particulièrement inconfortable quand, après la proclamation de la République, dont tout le monde sait qu'elle a eu lieu le 21 septembre 1792, seront prises des mesures anti-religieuses, radicales, ayant pour but, nous dit-on, l'extirpation du fanatisme et de la superstition. Parmi ces mesures, il y en a d'autres, il y en a de fondamentales et il y en a de secondaires. La première, c'est le calendrier républicain, qui sera adopté à Saint-Antonin, par ordre évidemment du pouvoir central, le 22 novembre 1793. Ce jour-là, sur les registres, on ne marquera pas 22 novembre 1793, mais Duodi Frimaire en deux. Et ce calendrier républicain supprime les dimanches et les fêtes religieuses et institue un jour de repos qui s'appelle le décadi, tous les 10 jours.
Oui, ce calendrier supprime les dimanches et les fêtes religieuses. Est-ce que les offices religieux en sont pour autant supprimés?
Eh bien, ils n'en sont pas pour autant supprimés explicitement, mais ils deviennent difficiles à exercer. Il est libre tout de même au curé de continuer à dire sa messe dans l'église. L'église n'est pas fermée, et ne l'oublions pas. Hors des jours de dimanche qui sont supprimés, il peut le dire n'importe quand. Mais ce qui est interdit, par exemple, il est interdit de se reposer le dimanche. Parce que l'ancien calendrier, vous le comprenez bien, est conservé par les habitants. Hein, c'est pas du jour au lendemain. Vous voyez le mal qu'on a à utiliser les nouveaux francs. Alors, le calendrier, n'en parlons pas. Alors, les habitants continuent de vivre au rythme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, c'est dimanche. Alors, que se passe-t-il le dimanche? Eh bien, les gens vont à la messe. C'est défendu. Parce que le dimanche, c'est pas le décadi. Et il y a des ennuis. On a des ennuis. Au début, on ferme les yeux. Mais le district, le département, les agents du département, les agents du district veillent. Et alors, il y a des sanctions qui sont prises. Alors, à ce moment-là, reste le décadi. Mais le décadi ne restera pas longtemps parce que très vite, on va instituer ce qu'on appelle le culte de la raison, dont la première cérémonie, la première fête de la raison, se tiendra ou sera organisée dans l'église des Capucins. Alors, voyez, pas l'église paroissiale. On a sans doute voulu encore laisser au curé l'église paroissiale pour lui servir d'église. Il sera célébré le 12 Nivos en deux, c'est-à-dire le 1er janvier, notez bien la date, 1794. Fête de la raison.
Vous nous expliquez ce que c'était le culte de la raison?
Oh, mais c'était une cérémonie grandiloquente qui avait été imaginée, dont on s'est beaucoup moqué après tout. Hein. On voulait abolir le fanatisme et la superstition, et on voulait que devienne qu'on ne devait croire, que l'homme ne devait croire qu'à une entité, une idée, la raison, que tout dans la vie des hommes devait être la raison. On voulait tuer tout ce qui était spiritualité. Et alors, je ne sais pas si ça s'est passé à Saint-Antonin, parce que les officiers municipaux ne l'ont pas décrite, cette fête de la raison. Alors que d'habitude, ils mettent 10 pages pour décrire une fête. Là, ils ont dit qu'ils avaient célébré la fête de la raison. Je les soupçonne fort de ne pas l'avoir fait. Mais ils l'ont mis dans le registre pour qu'on ne les ennuie pas, vous comprenez? Alors, en général, il y avait une raison, on la personnifiait, la raison. On choisissait dans la ville une belle fille. Une belle fille qui, là-haut, placée sur l'autel de l'église, pendant toute la cérémonie au cours de laquelle on lisait les décrets, les lois de l'assemblée, on chantait des hymnes patriotiques, etc., elle se tenait immobile, revêtue d'une écharpe tricolore, en robe blanche. C'était la raison. C'est une occasion unique pour les jeunes filles de Saint-Antonin, si ça avait existé, de se faire élire Miss Saint-Antonin. Mais ce culte de la raison, attention, précisons bien tout de suite, je plaisante un peu, ne durera que très peu de temps. C'était un culte qui avait été institué par ce qu'on peut appeler les anticléricaux de l'Assemblée, qui était à ce moment-là la Convention. Et à l'initiative de Robespierre et sur l'insistance de Robespierre, dès le mois de mai 1794, quelques mois après seulement, ce culte de la raison sera remplacé par le culte de l'être suprême. Robespierre était très fâché que l'on ait ainsi chasser Dieu de l'esprit des hommes. Il était déiste. Oh, pas déiste pour croire au pape ou tout ça, mais il était déiste et il a fait adopter le culte de l'être suprême et l'église de Saint-Antonin deviendra la salle des cadères, ou mieux que ça, le temple de l'être suprême, qui, après la chute de Robespierre, pour ne pas rappeler Robespierre, sera appelé le temple de l'éternel. Voilà donc ce qui, évidemment, crée pour les prêtres une situation difficile et qui va faire qu'ils vont être amenés, peu à peu après ce culte de la résurrection, à ne plus avoir l'occasion de célébrer leur culte, et ils vont décider, la plupart, d'abandonner. Il y a autre chose aussi sur l'exemple donné par un évêque qui était député à la Convention, Lende. Lende déclare un jour qu'il abandonnait son célibat, et il dit qu'il invitait les prêtres à se marier. Eh bien, ça se fera aussi chez nous, il y aura des mariages. Certains de ces ecclésiastiques dont j'ai parlé, n'est-ce pas, j'ai dit qu'ils avaient été fidèles à la nation, à la loi et au roi, ils adhèrent, la plupart même, adhèrent à ces mesures, et ils vont renoncer à leur état religieux. Ils font abandon, comme on dit, de leur lettre de prêtrise, tel Jean-Louis Amand Delrieux, ancien prébendé du chapitre, et ils le font par une déclaration officielle. Voici ce que dit Delrieux. Et puis alors, vous allez voir, il envoie un papier, il dépose un papier. « Citoyen, l'esprit public se développant de toutes parts, se prononce avec énergie contre les prêtres et leurs fonctions. » Le peuple français dont la régénération étonne l'univers et qui vient de se donner le gouvernement le plus populaire qui ait jamais existé ne veut plus d'intermédiaire entre lui et le Créateur. Soumis à son vœu bien manifesté, je remets entre vos mains mes lettres de prêtrise et renonce à toutes fonctions ecclésiastiques, vous promettant de ne remplir désormais que celles de citoyens zélés pour le maintien de la République une et indivisible, salut et fraternité. » Et ainsi, après lui, Lassos, curé de Saint-Antonin, Marty, curé de Montpalache, vont abandonner leurs lettres de prêtrise. Henri de Juvenel, vicaire épiscopal, qui s'appelle plus Henri de Juvenel, maintenant il s'appelle Henri Juvenel, et qui lui, parce qu'il est vicaire épiscopal, envoie ses lettres de prêtrise au district de Villefranche, où on nous répond, nous avons reçu les guenilles du citoyen Juvenel. Les guenilles, c'est les lettres de prêtrise. Et enfin, Georges Lassos, lui, hein, il fera comme les autres. Il remettra ses lettres de prêtrise, abandonnera ses fonctions ecclésiastiques, et il se mariera, le bougre, quelque temps après, avec une de ses compatriotes de Lyon, pays dont il était originaire.
Que deviennent ces prêtres qui quittent la religion? Parce qu'ils ont perdu leur richesse au moment de la vente des biens du clergé.
Ah oui, mais attends, n'oublions pas qu'ils sont pensionnés, ils continuent à toucher les pensions de l'État. Et ça durera encore pendant tout le temps. Ils se sont conformés au fond, aux vœux de la nation. On n'a absolument rien à leur reprocher. Maintenant, pour Delrieux, pour Lassos, pour Lattache, pour encore d'autres, dont je n'ai pas le nom là, la plupart d'entre eux participeront de façon très active à la vie municipale. Ils seront notables dans le conseil municipal, mais surtout, ils seront membres de la société populaire. C'est ça qui est inouï. C'est-à-dire du comité de salut public Saint-Antoninois, qui fera la chasse aux suspects, et qui montrera ce qu'il faut faire pour que la révolution réussisse. C'est un comble, ça. Quelques autres, rares, refusant le nouveau serment civique, perdront évidemment la pension qui leur est servie par l'État et seront, comme je l'ai dit tout à l'heure, déportés au Fort du Ha à Bordeaux.
Thank you.
L'Église connaîtra des moments difficiles pendant ces années révolutionnaires. Jusqu'en l'an 4, c'est-à-dire en 1796, où le culte autorisé à nouveau, on verra prêtres réfractaires et anciens prêtres assermentés se disputer l'utilisation de l'Église. En particulier, un conflit terrible va s'élever entre Juvenel et Ricard d'un côté, prêtres assermentés, et les Joigny, encore eux, qui sont restés réfractaires. Et il faudra que le conseil municipal fixe des heures d'utilisation de l'Église pour les uns et pour les autres. De 6 à 9 pour Juvenel et Ricard. De 9 à 12 pour les Joigny. De 2 à 5 pour Juvenel et Ricard. De 5 à 8 pour les Joigny. Et voilà. Enfin, tout rentrera dans l'ordre. Après le concordat de l'an 10, 1802, qui ouvrira pour l'Église catholique une période plus d'un siècle de liberté totale, de prestige, d'autorité et de puissance telle qu'elle n'en avait jamais connue dans son histoire et dont témoignent les innombrables églises construites ou reconstruites au XIXe siècle.